7h46 avec notre premier invité de la matinale. On revient en détail sur ces mesures économiques annoncées par Emmanuel Macron. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes économiste, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes et de la commission chargée par le président Macron de réfléchir au monde d'après. Alors, Dominique Seux en parlait, c'est le chiffre qui a été confirmé et qu'on a tous retenu. 100 milliards d'euros en plus pour la relance, avec près d'un million de chômeurs d'ici la fin de l'année. 100 milliards, c'est suffisant ou pas ?
Écoutez, en tout cas, c'est. Je pense que, d'une manière générale, ce que le gouvernement a fait pour répondre économiquement au Covid, je pense qu'il est à la hauteur des enjeux. Donc, je trouve que voilà, je trouve que c'est une bonne chose qu'il annonce ces 100 milliards supplémentaires. Et d'une manière générale, je pense que voilà, on peut critiquer la gestion sanitaire, mais je pense que sur le plan de l'économie, je pense que ce qui est fait est à la hauteur des nécessités, des enjeux.
Donc, il faut continuer à aider les entreprises sans condition. Toutes les entreprises.
Alors voilà, donc d'abord, le Covid, c'est un choc d'offres et un choc de demande et un choc d'emploi. Donc, du côté offre, il y a un arbitrage entre protéger et réallouer. Il y a des activités qui vont s'avérer non viables. Mais c'est vrai qu'à court terme, il faut protéger, parce qu'en plus, il y a du capital humain. Il y a dans les entreprises, il y a d'expérience. Donc, il faut... Mais il faudra aussi réallouer à plus long terme. Donc je pense que
choix.
Ça sera important de mettre en place un bouclier anti-faillite ciblé sur les entreprises en difficulté. Voilà. Et donc, il faut à la fois protéger, mais aussi réallouer. Je pense également que ce qui est fait sur l'emploi est important. Je pense que les baisses de charges, on aurait pu penser aussi à des primes à l'embauche qui ont été proposées
pour
par le Conseil d'analyse économique.
Hein, oui.
Et les mesures jeunes, c'est des mesures très importantes. Mmh. Et puis, je pense que du côté demande, le problème est qu'il y a une épargne accumulée des ménages les moins modestes. Donc, là, il faut être sûr qu'ils vont dépenser. Alors, est-ce que peut-être des baisses de TVA temporaires seront nécessaires si la consommation baisse trop? Mais si elle baisse pas, c'est pas nécessaire. Et puis, il faut soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes par des transferts ciblés et des bons d'achat de biens et services, je pense, proposés par le Conseil d'analyse économique.
Ça, ce sont vos propositions, Philippe Aguillon. On s'arrête un instant sur l'emploi des jeunes. Vous le disiez, il y a ces exonérations de charges, la création de 300 000 contrats d'insertion, 100 000 places dans le service civique. Aux rencontres d'Aix au début du mois, vous aviez lancé un appel pour la jeunesse.
Oui.
Vous êtes satisfait, donc, ce matin?
Écoutez, je sens en tout cas qu'il y a un répondant, oui. Tout à fait.
Alors, on n'a pas d'infos, en revanche, sur qui et comment on finance ce plan de relance.
Il a quand même donné des... C'est sûr que là, il y a ce qu'il appelle la dette Covid. Donc, il va utiliser la dette Covid pour faire ses dépenses et puis également pour investir. Et donc, il y a tout un autre volet dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est le volet industriel. C'est-à-dire qu'en fait, à l'occasion du Covid, on s'est rendu compte, enfin, on le savait, mais c'est apparu très fort, que la France avait perdu pied dans le domaine industriel. Par rapport à l'Allemagne, notamment dans tout ce qui est produits, pharmacie, respirateurs, masques, etc. On était à peu près comme l'Allemagne au début de l'année 2000, et on s'est fait complètement distancer par eux depuis. Et en fait, on se rend compte que dans d'autres domaines industriels également, la France s'est fait distancer. Donc je crois qu'un truc très important qu'a dit le président hier, c'est la relance industrielle de pair avec l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie et la relance de l'industrie, ça va aller ensemble. Et ça, je crois qu'il y a vraiment, il faut vraiment pas sous-estimer ce qui a été dit là. C'est une vraie relance industrielle qui est planifiée.
C'est ce que vous prenez vous depuis des années. Il veut redevenir une grande nation industrielle grâce à l'écologie et
absolument.
À la relocalisation. Mais derrière les grands mots, justement, ça veut dire quoi très concrètement tout ça?
Alors la relocalisation, ça ne veut pas forcément dire que vous fermez des choses que vous faites en Chine et que vous les ramenez, mais ça veut dire que vous vous réappropriez en partie le contrôle des chaînes de valeur, surtout dans des domaines stratégiques comme la santé, comme l'énergie, vous décidez, comme les batteries, comme que vous voulez, vous réappropriez davantage des chaînes, des maillons de chaînes de valeur, comme les Allemands l'ont fait. Et vous le faites pas par des mesures protectionnistes, vous le faites par de l'investissement, et également en encourageant de nouvelles activités. Ça ne veut pas dire seulement que vous relocalisez, ça veut dire que vous essayez de, eh bien, dans ces domaines-là, dans ces maillons, de dire, eh bien, on va investir et on va être les meilleurs. Voilà, on a perdu pied, on peut reprendre. On est les meilleurs en aéronautique, en nucléaire, en isolation thermique, mais on était très bons jusqu'à il n'y a pas longtemps dans d'autres domaines, vous voyez. Et donc, on peut reconquérir et investir. On n'innove pas assez en France, on sous-investit en recherche. Et donc, on peut, je veux dire, tout ça est rattrapable. Je veux dire, en l'espace de 10 ans, on peut totalement redevenir leader dans des domaines dans lesquels on a perdu le leadership depuis depuis le début des années 2000.
On l'avait. Investir, donc encore une fois, on parle d'argent, vous parliez de la dette Covid, mais ça veut dire qu'on peut la laisser filer cette dette? On n'y
peut-être
pas l'avenir?
Non, ça veut pas dire qu'on peut dépenser dans n'importe quoi. Je pense que ça veut dire qu'il faut cibler ses investissements, ses dépenses. Alors après, il y aura le problème de qu'est-ce qu'on fait. Alors pour les moments, les taux d'intérêt sont très bas. Il se peut qu'après, les taux d'intérêt remontent. Pour s'assurer contre un risque de remontée des taux, eh bien, des collègues à moi ont prolongé d'allonger la maturité de la dette française. Donc on peut avoir des mesures d'allongement de la maturité de dette pour nous protéger contre de possibles remontées de taux. Ceci dit, Olivier Blanchard...
Ça veut dire qu'on l'étale dans le temps ?
Voilà, on étale dans le temps. Et Olivier Blanchard, par exemple, et d'autres, pensent que, pour le moment, les taux ne vont pas remonter. D'accord ?
Donc on en profite.
Et vous savez, la dette publique... Alors évidemment, il faut contrôler la dette publique. Mais la dette publique, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est par rapport au taux de croissance que vous avez. Si vous avez une croissance potentielle qui n'est pas nulle, vous voyez, qui est à 1%, 1,5%, eh bien, d'avoir un peu de dette publique, c'est pas très grave. L'Italie, c'est très grave parce qu'ils ont de la dette publique, mais ils n'ont pas du tout de croissance. Vous voyez, il faut toujours regarder la dette publique par rapport au taux d'intérêt et par rapport au taux de croissance que vous avez. Tant que le taux de croissance est supérieur et largement supérieur au taux d'intérêt, je veux pas dire, il faut contrôler, évidemment, mais on peut se permettre un petit peu plus de dette publique. Voilà. Donc, mais pour autant, je ne suis pas pour dépenser dans n'importe quoi.
On a compris.
Il va falloir contrôler.
Et
certaines de ces réformes vont nous aider après à faire des économies.
Vous parliez d'innovation et d'écologie. Emmanuel Macron a annoncé des aides à la transition énergétique des ménages, des primes pour la conversion, la rénovation thermique aussi dans les écoles ou les EHPAD. En quoi tout cela va-t-il créer des emplois ? On attend quand même près d'un million de chômeurs d'ici la fin de l'année en plus.
Alors, en tout cas, c'est de la relance industrielle. Donc je pense que, d'ailleurs, il y a ce secteur, il y a aussi le secteur de la santé où on va investir. Donc moi, je suis pour la création de BARDA, vous savez, ou de DARPA, vous savez, comme le Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire c'est des institutions qui mobilisent des fonds pour investir dans l'industrie, dans ce qu'on appelle les innovations de rupture, d'accord ? Les Américains avaient fait ça pendant le moment de la guerre froide, pour mettre des hommes dans l'espace, pour investir dans le laser et d'autres autres choses. Eh bien, nous, et ils ont fait ça en biologie avec la BARDA. Et vous savez, Sanofi allait vendre des vaccins à la BARDA américaine. Ben nous, il faut qu'au niveau européen, notamment franco-allemand et puis étendu à d'autres pays, on crée l'équivalent de ces DARPA ou de ces BARDA. Alors les domaines évidents, c'est la santé, parce que la santé, ça veut dire la nanotechnologie, ça veut dire la robotique, les biotech, l'intelligence artificielle, tout ça est lié à la santé. Et puis l'énergie, c'est évidemment tout ce qui est innovation verte, parce que c'est par l'innovation verte. Si on n'a pas d'innovation verte, on est condamné au malthusianisme. C'est ce qu'il a dit hier. Je veux pas du moins, je veux du mieux. Qu'est-ce que ça veut dire le mieux? Ça veut dire l'innovation. Mais il faut investir dans l'innovation. Et là, à nouveau, je pense que au niveau européen, on peut avoir quelque chose de formidable au niveau une DARPA énergie. Vous voyez, et ça va créer des emplois.
Sur la politique fiscale, les 20% des Français les plus aisés peuvent oublier la suppression de la taxe d'habitation. En revanche, pas question de revenir sur la suppression de l'ISF.
Oui.
Ça aussi, ça vous convient?
Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que, vous voyez, la France, c'est vraiment, le président l'a dit hier, il s'est garanti une position d'attractivité pour les investissements étrangers. Et je crois que c'est important parce que nous nous sommes alignés sur la fiscalité des autres. Vous voyez, notamment des Scandinaves. Les Scandinaves n'ont pas d'ISF. Or, pourtant, ce sont des pays très égalitaires et avec vraiment une croissance très inclusive. Et je pense que c'est très important de dire on est comme les autres, on ne surtaxe pas le capital. Je pense que Piketty a totalement tort. Et on reste là-dessus. Parce que si on commence à changer à chaque événement, le pire, c'est l'instabilité fiscale. Il faut être stable. Vous voyez, en Suède, il y a une alternance de gouvernements sociaux-démocrates ou libéraux et ils ne changent jamais les impôts.
Dernière question, car le temps file, Philippe Aguillon. Dans le journal Le Monde, en mai dernier, vous dites espérer qu'Emmanuel Macron se serve un peu plus de sa jambe gauche pour sa politique économique. Verdict ce matin ?
Oui, moi je pense qu'en tout cas c'est équilibré. Et surtout, je crois qu'une des choses très importantes de ce nouveau gouvernement, c'est le dialogue social. C'est-à-dire que, avec Castex Revel, mon espoir, ce sont des spécialistes du dialogue social. Castex est spécialiste du dialogue social chez Sarkozy et Revel chez Hollande. Il n'y aura pas de passage en force de dire, je fais des ordonnances, vous avez une semaine pour vous mettre d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, je fais des ordonnances. Je pense que cette méthode-là, du droit dans ses bottes, est révolue et que maintenant, l'heure est au dialogue social et je m'en réjouis.
Eh bien, on a entendu votre satisfaction. L'économiste et professeur au Collège de France, Philippe Aguillon, merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce matin. Au revoir, bonne journée.